Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Et je vous fais un petit résumé. Une petite mise à jour, un refresh. Vous êtes arrivé sur l'île de Pike, qui porte sur ses terres la capitale des Fernés du même nom. Capitale que le père de Solomon, le connétable du Dominion de l'époque, a totalement incendiée il y a 20 ans. Ce qui explique la raison du duel judiciaire qui aura lieu dans 3 jours. Comme le père de Solomon est mort, les Fernés ont négocié avec les Maisons pour mettre la main sur lui, pour organiser ce duel et tourner la page. En termes plus exacts, pour se venger en tuant le fils du responsable. C'est le capitaine Neufdoigt qui vous a accueilli et qui vous hébergera jusqu'à la tenue du duel contre Euron Swann, le champion des Îles de Fer. Dans la nuit, une intruse s'est invitée dans la chambre de Solomon, Shina, la fille d'Aruandi, le vizir de la cité dure. Alors que Solomon pensait l'avoir sauvée de la peste il y a 4 ans, avec l'aide de sœur Kélan, il n'en était rien. Shina n'a jamais survécu à la maladie. Et c'est l'un des 4 cavaliers nécromanciens, de l'Empereur Mort qui possède son corps et le maintient dans un semblant de vie. Le même cavalier qui tente de tuer Solomon depuis ses 13 ans et qui est responsable de la mort de plusieurs de ses proches. Le combat s'est transporté jusqu'au champ, derrière la maison familiale de Neufdoigt, où Ygritte a commencé à batailler seule contre le cavalier nécromant. Alors qu'elle lui assène un coup de poing violent à la tête, qui aurait dû clouer le monstre au sol pour un long moment, mais le corps de la créature se recouvre d'une espèce de croûte noirâtre et sanguignolante, suintante de pus, comme une affreuse gale, puis se relève à peine secouée par le cou de la jeune femme. Ygritte goûtera aussitôt après de ses longues griffes qui labourent son ventre. À ce moment, Kenan et Solomon arrivent en courant à travers champs. Le premier ralentit le temps autour de lui, sauf la course de Solomon, permettant à ce dernier d'enflammer son cimeterre pris au jeune homme et d'abattre la lame dans l'épaule de l'ennemi, mais ne le blessant que légèrement. Un rude combat s'annonce pour notre trio, car qui peut prétendre vaincre un être mort depuis des siècles? Une silhouette court pour rejoindre nos héros, Neufdoigt, vient leur prêter main forte alors que sa femme crie au pas de la porte. « Euron, reviens !» Un déclic se fait dans la tête d'Ygritte et Solomon. L'homme qui les a chaleureusement accueillis sur son toit n'est nul autre que Euron Swann, le champion que Solomon devra affronter en duel à mort dans très peu de temps. Rappel, Kenan tient dans ses mains une lampe à l'huile, éteinte.
Chapitre 1. Le chant du diable.
Solomon, tu as asséné un de tes meilleurs coups sur l'épaule de cette créature responsable de tant de malheurs, de souffrances et de morts dans ta jeunesse. Et elle te regarde. Elle plonge son regard dans toi et te dit
« Triple idiot! Seule la vie de la Kuanak m'intéresse! »
Et là, il se rue sur toi. Mais tu comprends que ce n'est pas pour te tuer. À 2 mains, il va tenter de percer ta garde et de te projeter au loin. Que fais-tu alors que tu vois ces 2 bras pourrissants, menaçants, ses dents et ses griffes qui terminent ses mains se projeter vers toi?
Eh bien, sans entrer trop dans la description, je vais tout simplement tenter de me défendre là, avec le cimeterre pris à la ceinture de Kenan.
Et combien tu as en niveau d'action avec un cimeterre dans les mains?
Alors, évidemment, je suis un petit peu moins efficace qu'avec un marteau d'armes, qui est ma spécialité, donc je vais être à 9 de Héna.
Tu es à égalité avec le talent de la créature devant toi. Donc, ce serait un jet à 50%.
28!
C'est une réussite partielle. Mais tu peux payer un prix pour avoir une réussite totale. Car je crois que tu as compris, Solomon, que des demi-dégâts sur une telle créature, avec la peau, cette gale qui la recouvre, peut-être que ton arme ne passera pas à travers.
Peut-être sûrement que mon arme ne passera pas au travers.
Oh, tu écoutes la voix qui résonne dans ton crâne, c'est bien, c'est bien.
Donc, oui, je vais payer un prix pour avoir une réussite totale, tiens. Je vais... Eh bien, si tu le permets, le prix à payer, ça va être peut-être que son attaque, que je vais réussir à la blesser totalement, mais que son... Le fait qu'elle me repousse, tu sais, avec son armure, même si mon attaque totale passe, je sais que je la blesserai pas gravement, donc encore plus enragé, là, la créature va passer mes défenses et va réussir malgré tout, peut-être, à me repousser comme elle voulait. Donc, avec le cimetière enflammé, hein, de Kellan dans la nuit, j'empêche cette première attaque de sa part et j'en profite pour lui porter un coup d'esto dans le bas-ventre à cette créature-là avec mon arme enflammée. Ça ferait 5 de dégâts.
Oui, il va penser 2 de dommages.
Parfait. Suite à quoi, hein, donc, sur cette armure souple qu'elle a en guise de peau, avec une fureur dans les yeux, là, maintenant, je peux pas me défendre corps à corps à elle. Elle va tout simplement m'empoigner et me balancer comme un fétu de paille.
Et oui, et tu vas être très surpris par sa poigne, cette force déployée sur ce, à l'intérieur de ce bras frêle, parce qu'il s'agit quand même de la silhouette de Shina, que cette fille, cette jeune fille, dans les âges d'Igirith, il te soulève et t'envoie le valdinguer comme si t'étais un chaton. C'est à plusieurs mètres que tu vas te retrouver, Solomon, peut-être tout près d'une dizaine de mètres, à rouler dans les herbes et te réceptionner. Aucune blessure, mais tu es étourdi et à tâtons, ben, tu cherches ton cimetière que t'as perdu de tes mains, mais tu vas vite le retrouver parce qu'il est en train d'enflammer les herbes hautes. Ygritte, la caméra tourne vers toi. Tu as perdu ta lance, elle qui est cassée en deux. Du sang coule de ton abdomen. Que fais-tu, toi, qui es là pour protéger Solomon et tu viens de le voir faire un...
Oui, tout à fait.
Voler dans les airs.
En fait, on voit peut-être la caméra du point de vue de Ygritte qui voit que ses yeux suivent Solomon un peu voler en air puis aller s'écraser à l'autre bout souffrant de blessures quelconques, là, qu'elle est pas trop qu'elle est pas au courant. C'est simplement de... Ça peut être également un slow motion, tu sais, comme si oh non, tu sais, le pire est en train d'arriver, sa vie est en danger, don't like it. Fait que là, Ygritte va prendre un état émotionnel qui va être furieux, contrarié et destructeur. Parce que là, ça va pas bien. C'est d'autant plus que elle est consciente que c'est après elle qu'elle en a. Là, elle en a sa claque. Elle lâche un de ses cris très sauvage. Tu sais, comme si elle rameutait un peu une meute de loup, mais plus un cri de cri à la lune, là. Tout pour la libérer un peu de cette colère-là, tout en sortant ses griffes puis en se mettant en mode berserker.
Ouh, à ton cri, tu vois quasiment la créature tressaillir, tellement que ça sort de tes tripes. Je dirais pas un frisson, mais elle est vraiment surprise. Et aussitôt après avoir lancé Frère Solomon, elle se retourne vers toi. Et tu vois un léger doute se dessiner sur cet horrible faciès aux dents longues.
je pense que ce doute-là va rajouter un peu de pas de colère, mais tu sais, là, venir chercher de quoi dans genre, ah ouais, t'as peur, ben c'est exactement ça que je veux, puis va venir rajouter une couche pour donner son élan de partir à la course pour le, carrément la transpercer avec ses griffes-là, ou ben.
Donc c'est un deuxième cri en course qu'on entend alors que tu te précipites sur la créature.
Ah oui.
Est-ce qu'Ygritte est comme tombé en mode berserker?
Ouais, oui, je l'ai mentionné là.
C'est son style, hein?
Ouais. Ah oui, là c'est comme.
C'est très tendance cette année pour Ygritte.
C'est tendance.
Alors vas-y, tu as combien en niveau d'action?
Alors avec mes griffes, j'ai 10.
Oh, c'est très très fort, hein? Écoute, ton jet de serait normalement à 50%. Mais la dernière blessure infligée au torse qu'a fait Solomon à la créature, mais ça commence à payer. Tu fais ton jet à 60%, Eric.
Là, avant que tu jettes l'idée, un rappel, Eric. Lorsqu'on utilise un état émotionnel pour notre géant, on peut rajouter 10%.
Ouais, c'est ça. C'est okay, que tu parfait. Choisis l'un ou l'autre. C'est soit qu'il a fait son jet à 77. Ah ouais, ok, où est-ce que je suis allé? Où est-ce que je suis allé chercher
77? 77. Ah oui, allons-y.
C'est soit tu fais ton jet, tu prends ton état émotionnel, tu fais ton jet à 70%. Ou soit tu le fais à 60, mais tu le prends pour passer d'une fiction qui frappe, un jet raté, à une réussite partielle.
Parfait.
Que fais-tu, toi, Ygritte? Est-ce que tu laisses ça à 60?
Je vais y aller en ligne, y aller à 70, puis on laissera la Allez. Fiction me rentrer dedans. Là. Je sais que je suis pas très chanceux.
Combien?
13.
13! Oh. Mamma mia! Bon, dis-moi, Ygritte, que se passe-t-il alors que tu réussis exactement ce que tu veux faire? Quel est le nombre de dommages avec tes griffes? Ça donne quoi?
6. Quand je suis en berserker.
Aïe, 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 aïe. OK, on s'accroche. Écoute, c'est 3 de dommages que tu vas faire, hein? C'est très fort. Elle va prendre encore un autre 10% de pénalité un coup que tu vas avoir passé à travers.
J'imagine bien, en fait, tu sais, étant donné qu'elle a un état émotionnel, qu'elle est en mode berserker, ses pieds, comme un peu la terre, s'enfoncer avec l'espèce de poids de son corps qui pourrait donner une espèce de boost de vitesse qui... ouais, j'aurais pu activer ce pouvoir-là en même temps, mais c'est pas grave. qui ferait en sorte qu'elle, tu sais, à part à courir en hurlant, tu sais, en criant après la bête, elle saute dessus comme littéralement un animal enragé, puis donne des coups de... Mais tu sais, c'est certain que pour les autres, ça pourrait être des coups de poing, mais elle, étant donné que ses griffes sortent entre ses phalanges, mais tu sais, c'est... Il y a des griffes en plus qui viennent rajouter un peu plus de sanglant. Donc, c'est des coups de poing sans arrêt pour laisser aller sa colère s'insérer dans sa petite peau.
On tourne la caméra, on s'en va faire un tour du côté de Kenan. Lampe à l'huile en main, peut-être même un cimetière, celui qu'il te reste. Et que fais-tu, toi, Kenan?
Après t'avoir fait pipi dessus en voyant la scène...
Oui, c'est vrai.
Oui, à ce temps qu'il a compris la technique là, dans la bassine d'eau, tout le monde fait pipi.
Non, ben moi j'imagine que je dois voir le dos de la créature en ce moment, non, qui est plutôt occupé avec Ygritte.
Oui, effectivement. Tu vois que la créature là, est aux prises avec la jeune femme. Elle est débordée littéralement.
Ben, je pense que je vais... Je vais charger la créature du coup dans le dos en essayant de viser à l'arrière du cœur le plus rapidement possible. Donc la pointe de l'épée en avant pour essayer de l'embrocher. Et je vais utiliser mon pouvoir pour accélérer ma course. Donc je vais ralentir le temps un petit peu pour arriver plus vite sur elle.
Très bien. Tu vas dépenser un point de focus. Je te fais pas tirer, il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc, tu bénéficies d'un 10% supplémentaire sur ton jet parce que tout autour de toi semble être au ralenti. Alors que toi, tu files à toute allure vers ta cible.
C'est l'apocalypse au ralenti.
Tu as combien? Tu la frappes avec un cimetière, un seul?
Oui, toujours. Ben écoute, c'est... J'ai 7.
7.
NJ, est-ce que tu veux souffler sur les dés?
70%. Souffleuse?
Non, parce que j'ai pas lancé encore.
Non, je te dis que ça te prend un jet de 70%
immédiat. Ah, ok. Je croyais que j'avais cliqué, mais non.
Faut que tu cliques, faut que tu décliques.
Bah attends! Ne me faites pas stresser! 56.
56. C'est une réussite partielle. Est-ce que tu laisses ça comme ça? Ou tu fais un sacrifice pour avoir la totale?
Je vais avoir la totale.
Quel sacrifice es-tu prêt à faire, Kenan?
Mon sacrifice, ça serait que je vois bien Kenan empaler sa créature et réussir à l'empaler au niveau du cœur par l'arrière, mais quitte à ne plus pouvoir ressortir la lame.
Moi, je vois l'arme prise dedans, que t'as réussi un super coup, mais il va peut-être avoir un coup réflexe qui va sortir de là.
Je suis pas là pour souffrir, ok?
Ouais, je t'annonce que ça se pourrait, là.
Parfait. Non, mais c'est bon, bah, à moins que une autre personne ait une autre idée.
Est-ce que quelqu'un a une autre idée comme sacrifice?
J'entends quelqu'un se battre littéralement les couilles, là.
On bat les couilles!
Allez, tout le monde, on s'en bat les couilles.
Allez.
Andréane, va chercher tes couilles en plastique, là, pour t'en battre les couilles, toi aussi. Moi, je pense qu'on va y aller avec ça.
On part sur ça.
Ta lame plonge dans le dos de la créature, au niveau du cœur. Elle fléchit des genoux hein, suite aux coups répétés de griffes de Ygritte. Et là, elle se redresse. Et c'est comme si elle avait pris de la masse, de la grandeur. Et tu te sens soulevé de terre alors que tu t'accroches à cette lame. Parce que lors d'un combat, si on perd notre épée, c'est la défaite. Alors que la créature se lève, tu lèves avec elle. Et d'un coup, tu la vois se retourner pour te frapper de son coude, un coup réflexe. Tu as combien... dis-moi ce que tu fais. Tu peux soit esquiver avec ce mouvoir, ou soit utiliser les arts martiaux.
Les arts martiaux? Non, je vais esquiver. Très bien. Vais tenter d'esquiver, de partir en arrière.
Tu as combien de niveaux d'action?
J'ai 6.
Avec les blessures qu'elle a, vous êtes pratiquement à égalité. Ton jet se fait à 60%, quand même.
Ok.
On se croise les doigts. On pense à Kenan et on pense à toutes ces femmes qui pourraient perdre un amant extraordinaire.
Qui s'en battent les couilles.
Bah là, si le coup de griffe part au mauvais endroit...
C'est un coup de coude.
Ah, il peut être compliqué.
Ouais, tu vas te retrouver une minute.
Toutes les futures femmes.
Mais là, dis-toi que c'est un coup de coude. Un violent coup de coude, mais tu devrais pas perdre.
Un 57. Écoute, j'ai décidé ce soir de faire des chiffres entre 50 et 60. Donc.
Très bien, c'est une réussite partielle.
Mais c'est pas ça que t'avais eu juste avant, 56?
56, je fais tous les chiffres l'un après l'autre.
Ah, ok.
58, pas de soucis.
Ben, coudon. Tu te maintiens.
Ça serait mieux dans l'autre sens, même. Donc, je suis mort, c'est ça?
Non, pas du tout.
Quand le MJ met du temps à répondre, c'est que...
Écoute,
je suis mort!
Il est en train de te l'annoncer, tu sais. Comment je vais lui annoncer?
Bon, ben écoute, je t'envoie un faire-part. Va sur Discord, tu devrais recevoir une petite lettre avec la musique. Non, écoute, t'as quand même réussi en bas de 60?
Eh oui.
Oui? Ben, elle t'envoie un violent, mais violent coup de coude. Mais tu réussis à rouler dans cette esquive en roulant sur toi-même. Tu réussis quand même à prendre le coup, à rouler comme avec l'épaule. Si tu veux me décrire, elle réussit à te projeter au loin, mais tu ne seras pas blessé.
Ouais, ça va être ça. Ben, je vais tenter, au moment où je me rends compte que la créature se retourne, je vais tenter d'esquiver en roule-boulant en arrière.
Roule-boulant.
Je vais juste sentir le bras de la créature qui me essaye de m'attraper et je vais me retrouver, je pense, accroupi ou le ventre à terre.
Et alors que tu te retrouves au sol, tu vois une ombre sauter par-dessus toi, 9 doigts, qui se détend de tout son corps dans un saut, son épée au-dessus de sa tête, prêt à frapper alors qu'il va toucher la créature. Et elle s'en y attend pas du tout. Et on va voir sa lame se planter dans le haut de l'épaule de la créature. Ygritte, toi, tu es encore sous le coup de la colère. Tu es encore au corps à corps avec elle. Alors qu'elle...
Corps avec toi.
Ouais.
Corps avec toi. Ok, excusez.
Si tu vois un côté sensuel à cette scène, vite, vite, il faut consulter Ygritte.
Ben, moi, deux filles qui sont en train de se battre, désolé, là, mais...
je ne peux m'empêcher.
Ygritte... importe la tronche de la deuxième.
Ygritte, tu as vu que son attention s'est relâchée vers toi. Elle a même fait quelques pas en arrière pour donner son coup de coude à ce Kenan. Mais là, ta colère est toujours là. Toi, que fais-tu?
Ben, je continue à venger comme une folle furieuse.
Très bien. Solomon, toi qui reprends tes esprits et qui vois le feu commence à naître autour de la lame que tu as échappée.
Eh bien, avoir ces flammes-là, une idée me vient à l'esprit et je vais tenter un pouvoir. Je me souviens que Kenan porte avec lui une lanterne contenant de l'huile, même si elle n'est pas allumée.
Ouais, elle est en ce moment, elle est à ses pieds, pas très loin.
Ouais, c'est ça.
Copie, pas très loin, peut-être.
Elle aussi, elle a roulé boulé, hein.
Ouais. Ouais, elle est pas très loin de lui, mais.
Ok. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, c'est parce que là, la lanterne éteinte, elle est à une certaine distance de moi.
Oui.
Parfait. Dans le fond, écoute, c'est toi qui va me dire la limite de mon pouvoir, en quelque part, mais j'ai un certain contrôle sur les liquides. Donc, est-ce qu'il me serait possible de faire sortir l'huile de la lanterne et de faire en sorte qu'elle vienne se asperger la créature puis s'enflammer? Ou en tout cas, juste, sinon, asperger la créature?
Faisons quelque chose, toi et moi.
Oui.
La lanterne est faite de métal.
Oui.
Et tu possèdes autant le contrôle sur le métal que sur les liquides.
Exact.
Une belle combinaison des deux pourrait faire en sorte qu'on voit cette lampe s'écraser sur elle-même, comme imploser et voir le jet se diriger, mais tout droit sur la créature.
Parfait, oui.
Oui, ben oui. Allons-y, alors, en ténébreur. Tu qualifies ça d'un pouvoir coûte à distance, donc c'est certain que c'est 2 points de focus.
Oui.
Écoute, moi, deux...
Ouais, ça a l'air d'être un coup à deux, parce qu'à trois, ça serait sur plusieurs cibles avec
très
deux
bien.
Effets.
On y va avec ouais. Ça. Toi, ça donne combien comme ENA, ce pouvoir-là, si on regarde qu'est-ce que tu pourrais utiliser comme verbe?
Créo avec matière, donc je serais probablement à 80%.
Très bien. Écoute, le fait que ça bouge un peu, oui. Mais pas tant à l'envoyer, moi, je te le laisserai à 80% pour réussir ce
d'accord.
Pouvoir-là.
Oui, surtout que la créature est mal en point. En
très,
plus,
oui.
Éviter. Parfait. Donc, 64.
C'est une réussite partielle. Est-ce que tu laisses ça comme ça?
Peut-être que l'huile pourrait être aspergée également sur une des personnes qui entourent la créature en ce moment.
Comme moi.
Ouais, tu veux refiler ton prix à quelqu'un d'autre. Je te donne.
Écoute, ah ben regarde, moi j'ai une idée.
Si les autres joueurs acceptent de recevoir une blessure, j'ai aucun problème avec ça.
Peut-être que sans le fait qu'il grite ait une blessure en soi, je sais qu'elle a quelque chose par rapport au feu. Et là, vu qu'elle est au corps à corps avec la créature, si la créature prend feu, Ygritte risque de pogner 2 minutes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ah oui, c'est vrai, j'ai une peur de ma peur d'enfance, c'est le feu.
Très bien. Oui. Ouais. On peut aller. Ça peut être un très bon déclencheur pour la peur d'enfance d'Ygritte, effectivement.
Oui, chose que Solomon ignore totalement, tu sais. Sinon, il aurait peut-être pas fait ce move-là. Là.
Oui, de jouer avec le feu si près de la jeune femme, effectivement.
Oui.
Moi, je suis partant pour une réussite totale.
Parfait.
Je te laisse décrire qu'est-ce qui arrive. Et crois-moi, ça va être la blessure qui va mettre la créature sur les deux genoux.
OK, parfait. Donc, la lanterne éteinte qui est à terre et qui a laissé tomber Kenan, on la voit tout d'un coup alors que on entend le murmure de Solomon un peu plus loin. La lanterne, donc, on la voit se briser comme si les mains d'un gigantesque géant invisible étaient en train de la comprimer. Et on voit tout le liquide qui est à l'intérieur sortir. Et là, on voit que c'est surnaturel, là, le liquide, la façon qu'il sort. C'est comme s'il était dirigé comme un serpent qui s'en va directement sur la créature, l'encercle et vient l'asperger tout d'un coup. Moi, mon action est faite, à moins que tu me permets, sinon, que Solomon puisse lancer son cimetière enflammé près de lui ou quelque chose du genre. Hein.
Oui, alors qu'on voit la créature furieuse... qui est humecté d'huile, se retourner vers toi.
L'empereur mort te veut en vie pour l'instant. Sois-en reconnaissant.
Et là, tu as ce moment pour prendre ce cimetière qui brûle.
Et donc, je l'agrippe qui est près de moi. Je suis maintenant rendu à genoux. Et je le lance dans la direction de la créature. Et mon but n'est pas nécessaire... Idéalement, s'il pénètre la créature, elle prend feu. Donc, je prends le cimetière qui est à côté de moi alors que je suis à genoux. Je le lance vers la créature. On voit le cimetière dans la nuit en flammes faire des tours sur lui-même pour finalement venir se planter dans le milieu du torse de la créature, dans le milieu de la masse. La créature tombe à genoux. Elle s'enflamme immédiatement et on entend son cri inhumain. Dirigé vers la lune. Et l'odeur vient rapidement également.
Et là, ce qu'on voit, on a un zoom sur les yeux d'Ygritte. Alors qu'on voit la torche humaine, mais ce n'était pas un humain. Mais on voit la torche jouer sur les pupilles d'Ygritte. Et on voit peut-être Ygritte plonger dans un mauvais souvenir de son passé. Quel est-il, Ygritte?
En fait, dans ses pupilles, qu'on voit les flammes, on voit tranquillement, en fait, c'est plus la créature qui est dans les flammes, mais c'est moustache. En fait, le renard qu'elle avait domestiqué quand elle était jeune, que sa mère venait de lancer dans le feu, en espérant d'apprendre une leçon à sa fille, d'être forte, dure, pour qu'elle puisse reprendre la direction des guanacs, finalement, pour qu'elle reprenne le flambeau. Puis, à ce souvenir, en fait, Ygritte, elle est littéralement pétrifiée, là. Elle est immobile, littéralement en état de choc. C'est comme si son esprit avait quitté son corps, qu'il y avait deux fils qui s'étaient touchés, puis qu'elle a le regard vide, la bouche à moitié ouverte, puis que c'est... Pouf! Elle est plus là, là.
Ouf! T'es en train de me dire que ta mère, qui était chef de tribu, pour t'apprendre le détachement de qu'est-ce que c'est de porter le poids du pouvoir et d'être seul, elle a jeté ton animal de compagnie, alors que t'étais enfant, elle a jeté le petit renard dans le feu, vivant.
Vivant, fait qu'on entendait ses petits cris de souffrance et son dernier cri avant de mourir pendant qu'il était en train de rôtir dans le feu.
Je n'ai que trois lettres en tête, DPJ. Mais écoute,
Les guanacs.
Chez les guanacs, c'est comme ça, c'est dur. Et d'être la fille d'une chef de clan... Disons que ta mère est plus dure un peu que les autres, sans doute, j'imagine. J'espère que c'est pas la moins pire. Alors qu'on voit peut-être Ygritte s'effondrer, littéralement tomber sur ses deux genoux devant cette torche qui s'embrase et qui commence à éclairer la nuit. Kenan, toi, tu secoues la tête, tu regardes le spectacle et tu vois comme des volutes de fumée s'élever. Et c'est pas... inhabituel au-dessus d'une torche humaine. Mais cette fumée-là, elle est bizarre. Elle est comme... On devine une silhouette qui se détache du reste de la fumée et qui flotte vers la maison de la famille de Neuf-Doigts.
OK. Je vais me relever et puis je vais aller suivre cette silhouette.
Tu te relèves alors que tu vois Neuf Doigts reprendre son souffle, qui a reculé, qui se protège avec un bras parce que, écoute, les flammes se nourrissent de la graisse de la créature et commencent à crépiter, à devenir de plus en plus virulent, puissant. C'est un vrai brasier. On voit peut-être la silhouette de Solomon approcher aussi derrière les flammes. Et vous voyez tous Kenan, peut-être sauf Ygritte, là, qui est comme prisonnière de son atroce souvenir du passé, Kenan se précipiter vers la maison. Et Neuf Doigts se retourner vers toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu?
Il y a quelque chose de dangereux qui s'approche de la maison.
Et ça va affreusement vite. Alors que tu as fait la moitié du parcours vers la maison, tu sais que cette genre de forme de fumée qui avait un peu l'aspect d'une silhouette, tu l'as vu disparaître derrière la maison. Que fais-tu, Solomon?
Moi, j'imagine, j'ai pas vu du tout cette silhouette-là.
Non, toi, ce que t'as vu, c'est Kenan courir, et là, maintenant, Neuf Doigts, voyant la panique de Kenan, s'est mis à courir aussi derrière le jeune maison.
Et je vois qu'Ygritte est en état de choc.
Oui, elle est tombée au sol, à genoux, et elle semble paralysée devant le brasier.
Bien, moi, tandis que les deux hommes courent après je ne sais quoi, moi, je vais aller chercher Ygritte, courir vers elle, lui attraper la main et essayer de l'éloigner le plus possible du brasier, parce que là, je me rends compte qu'il se passe quelque chose, là. C'est pas normal qu'elle soit aussi choquée devant un mort.
Je te laisse continuer la scène. Je vais reprendre plus tard avec la maison.
Parfait. Donc, je prends sa main, je tire pour l'amener avec moi là à la suite des deux hommes. Là, je sais pas si Ygritte, tu résistes.
Non, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si qu'elle était plus vraiment dans son corps ou qu'elle était plus vraiment là. Fait que c'est ça suit, mais un peu de façon mécanique là ou automatique là, comme si.
Parfait, donc je l'amène avec moi à la suite des deux hommes aussi vite que je suis capable avec elle. Et j'ai espoir que la fraîcheur de la nuit, en s'éloignant du brasier, de l'odeur, la ramène rapidement, parce que je sens qu'on n'a peut-être pas fini d'avoir besoin d'elle.
Kenan, tu as poursuivi ta course, tu as dépassé la maison, tu es arrivé où la petite grange qui sert un peu d'écurie, où on a mis vos chevaux. Et là, immédiatement, tu vois que les deux grandes portes sont ouvertes et tu vois beaucoup de sang au sol.
Ok. Je commence à sentir un petit peu le danger qu'il y a autour de moi, là. Je vais essayer de regarder rapidement en avançant vers la grange s'il n'y a pas une fourche ou quelque chose pour essayer de me défendre au cas où.
À l'intérieur, tu peux percevoir... Le début du jour commence à se pointer, le ciel commence à légèrement s'éclaircir, et tu vois l'éclat du métal d'une fourche tout près de la porte.
Parfait, ben, je vais avancer vers l'intérieur, voir ce qui se passe tout en ramassant la fourche au passage.
Et comme tu as ralenti, Neuf Doigts a pu te rattraper. Et là, lui, plus pris de panique que toi, il s'agit de sa famille, ben lui, il joue quasiment de l'épaule pour passer devant toi et s'accroupir. Où est-ce qu'on voit le plus gros du sang, de cette mare de sang? Non, non, non. Solomon, Ygritte, c'est pas facile. Ygritte est comme un zombie. Elle est pas là. Ça va être très lent. Vous venez en marchant. Oui, tu peux avoir des regards paniqués, Solomon, vers la maison et la grange, mais est-ce que tu délaisses Ygritte?
Non.
Très bien. Ygritte, tu peux rester comme ça, ou tu pourrais faire un jet de force mentale sous, justement, la caractéristique mentale.
Mm-hmm. Force mentale, ok.
Tu as combien?
Moi, j'ai 6.
6. Tu vas me faire un jet à 60%.
Mm-hmm. Oh!
Oh! Un beau 4.
Bon, c'est une réussite critique.
Je me sors de là, je gère la patente, je sauve tout le monde en deux temps, trois mois.
Mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève la première saison des Chroniques de Babel. Elle a sauvé tout le monde. Elle a fait le duel judiciaire.
J'ai claqué des doigts et la moitié des méchants sont morts. On n'en parle plus.
Elle est maintenant la reine des îles de fer. C'est une réussite critique. Dans quelle direction tu veux utiliser ce bel avantage fictionnel?
C'est le pouvoir de la main réconfortante de Solomon, ça.
Oui. Oh, mother. je pense que ça réaiguiserait mes sens, puis ça ferait en sorte qu'on trouverait peut-être plus facilement, malgré notre retard, où est-ce que les méchants s'en sont allés, ce qui se passe.
Un genre d'avantage de perception quand on va arriver sur place.
Ouais, tu vas voir des choses que les autres ne voient pas, Ygritte. On va y aller comme ça.
OK.
Alors qu'on voit Neuf Doigts mettre un genou à terre près de ce sang, mais là on entend la voix de sa femme. Et là je vais aller retrouver, il me semble que c'est loin, de Tasha derrière lui. Euron, ça va? Et là Neuf Doigts se retourne et il voit Brandon, 4 ans, et Margot, 7 ans, qui tiennent tous deux les jambes de leur mère. Et là tu sens les épaules se relâcher de Neuf Doigts de soulagement de voir sa famille réunie. Solomon, Ygritte, vous arrivez dans l'entrefait. Ygritte, tu as été galvanisé par la scène qui vient de se dérouler. De replonger dans ton passé te fait prendre conscience que toutes les décisions que tu as prises après, de quitter ta tribu d'origine, de quitter cette mère, tu avais bien fait. Et lorsque toi, tu vois le sang, que tu vois la scène, mais les morceaux du puzzle se remettent en place. Tu as devant toi une scène de crime, mais contre un animal, un chien. Et tu comprends que cette scène-là n'est pas fraîche. Que sans doute, la créature, avant d'entrer dans la maison, s'est assurée de massacrer un être pour avoir un corps, pour aller se réfugier. Car c'est la nature de cette créature, d'entrer dans des corps mourants, de s'en servir comme vaisseau et de te préparer le règne, le retour de l'empereur mort. Et tout ça, ça te frappe. Tu en prends conscience, comme si cet élan d'adrénaline avait surchargé tes neurones. Tu prends conscience de tout ça en voyant la scène. Mais tu prends aussi conscience que maintenant, dans le corps de ce chien, Papillon, le chien de la famille, ben, rattraper cette créature, ben, c'est peut-être un acte qui sera fait en vain. Que fais-tu, Ygritte?
Dans le fond, la créature, là, était dans la fille.
Oui.
Elle est rendue dans le chien.
Oui. Elle s'est assurée de préparer un autre, de préparer un vaisseau pour la recevoir si jamais
pour il y avait un problème. Fuir, enfin.
Et là, ça donne un paquet d'indices. T'sais, on a pris cet avantage fictionnel, mais ça donne l'indice que cette créature-là peut pas investir un corps d'un vivant. Elle doit investir un corps d'un être mourant, ou soit proche de la mort, ou mort depuis peu.
Okay.
C'est un écrement, donc c'est un être qui tourne alentour de la mort. Donc, il a comme préparé une possible évasion avec le corps du pauvre Papillon, qui est le chien.
Oh. Okay.
Mais tu as de précieuses informations sur la nature de la créature et une façon peut-être de la vaincre. Entourée de vivants, est-ce qu'elle peut réintégrer un corps sur de longues distances? On a peut-être là quelque chose, Ygritte.
Mm-hmm. Ygritte, avec cette information-là, elle s'est pas trop vers... Elle aurait envie d'aller parler à Neuf Doigts, étant donné que c'est son chien, mais maintenant qu'elle sait c'est qui, elle veut pas trop y parler. Donc, elle va se tourner vers Solomon et va, en fait, lui chuchoter l'information pour pas que les enfants, parce qu'elle sait, tu sais, d'autant plus le souvenir qu'elle vient de revivre, qu'elle a pas envie d'apprendre de la sorte cette nouvelle-là aux enfants, comme quoi que leur animal de compagnie il est mort, puis il est maintenant... il est pas mort officiellement, mais tu sais, il est pris entre les griffes de d'un monstre, puis ils la reverront plus jamais, finalement, là.
Ouais, techniquement, il est mort, hein.
Ouais, c'est ça, ben, tu sais, en tout cas,
papillon n'est
c'est
plus.
Ça, il est mort, là. C'est ça, fait que, tu sais, elle va transmettre l'information à Solomon tout en chuchotant, là, pour que ça se rende aux oreilles des enfants.
On voit Ygritte sur la pointe des pieds en train de murmurer à l'oreille de Solomon, alors que Neuf Doigts, lui, empoigne sa femme et ses deux enfants. Voyez la famille s'étreindre.
Et après qu'Ygritte m'ait donné ces informations-là, je vais tout simplement faire signe de tête à Kenan et à Ygritte qu'on va sortir de la grange, les laisser seuls tous les trois pendant un moment, puis on va également mettre Kenan au courant de la découverte d'Ygritte. Qu'on est face à une créature qui est capable d'occuper des corps mourants ou morts, ça fait que ça en fait un adversaire formidable et quasi invincible, surtout en ville ou près d'une civilisation. Que c'est qu'un des quatre cavaliers et qu'on est loin d'en avoir terminé avec eux.
Kenan, comment tu reçois cette nouvelle? Parce que toi, on le sait, tu as la tête dans un ouvrage qui te parlait de faire revenir les morts à la vie. Et tu caresses ce projet de faire revenir ton père. Et là, tu as un exemple assez concret d'une chose qui est capable de se jouer un peu de la mort.
Ouais, peut-être que je pourrais essayer d'apprendre un peu plus sur cette créature pour voir s'il est possible d'arriver à obtenir sa capacité. Puis peut-être l'implanter à un être que j'ai envie de faire revenir.
Ah, si tes compagnons pouvaient lire dans tes pensées, peut-être tenterait-il de te dissuader d'aller vers cette voie. Mais ils n'ont pas ce pouvoir. Toi, par
pas
contre, tu as ce pouvoir de jouer avec les esprits, de jouer avec les cerveaux. Alors que vous discutez, Solomon, tu vois apparaître à quelques mètres de toi ton maître dans la ténèbre. Ce défunt, Caliban, lui qui t'a tout appris de cette magie interdite.
C'est un doué. J'ai regardé. Neuf Doigts bouger. Il bouge exactement comme bougeait le jeune frère Bjorn. Il a le don du combattant, Solomon. Ce duel ne sera pas une mince affaire.
Et pourtant, ce duel est loin de ce qui m'inquiète le plus. Là, pour les autres, probablement que j'ai de l'air à me parler tout seul encore. Hein?
Oui.
Mais je sais que c'est pas la première fois qu'on voit Solomon murmurer des personnes qui sont pas là ou avoir des conversations seules. Ce duel est loin d'être ce qui me préoccupe le plus. Cette créature que nous venons d'affronter est un des quatre cavaliers, un nécromant qui est capable de posséder des corps à volonté, pourvu qu'ils soient apportés.
Ouais, mais n'est-ce pas là une bonne nouvelle? Il t'a dit qu'il venait pour la Guanac, et non pour toi. Nous avons un répit.
Je le regarde comme si je venais de découvrir un aspect de lui, mais cette Guanac, je vois pas pourquoi on la sacrifierait à cette créature ainsi. Elle est avec nous, c'est une amie, on peut lui faire confiance. Qu'elle s'attaque à moi ou à elle, c'est la même chose. Elle s'attaque à notre groupe.
J'en conviens, je ne parle pas de la sacrifier, mais cela nous donne un certain répit. L'important, c'est que tu survives.
Je me détourne de Caliban et je me dirige vers la grange.
Il a fait référence à un jeune frère.
Ouais.
Qui, dans la loge, vous avez pris sous votre aile. Bjorn, il avait cette capacité, il touchait une arme qu'il n'avait jamais maniée et pourtant, il la manipulait comme pas un. Et t'as toujours douté que c'était peut-être un doué. Ça veut dire une personne avec un seul et unique don, mais très puissant. Et selon ce qu'a vu Caliban, Neuf Doigts, c'est-à-dire Euron Swann, serait porteur du même don. Dites-moi, est-ce qu'il va y avoir une conversation avec Euron Swann?
Ben, moi, c'est vers ça que je m'alignais, là, après qu'on lui ait laissé un moment avec sa famille.
Très bien. Écoute, on pourrait arriver où on entend les oiseaux chanter dehors. C'est le matin, on était tout proche du lever du soleil. Et là, autour de cette table, quatre personnes dans la salle à manger. Neuf Doigts, Ygritte, Kenan et Frère Solomon. Tu vois neuf doigts commencer à entasser du tabac dans sa pipe, silencieux.
Euron, on tient à vous dire que le sang dans la grange appartenait à votre chien et la créature qu'on a combattue cette nuit en a pris possession.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il voulait?
C'est un puissant nécromant et apparemment il en voulait à la vie. Je sais pas pourquoi, mais c'est cette créature qui tente de m'assassiner depuis mes 13 ans et qui tue, mais qui a tué des compagnons autour de moi.
Tant de monde veut vous voir mort, Solomon.
C'est un conflit que j'ai avec...
Avec l'existence celui qu'on même?
Celui qu'on appelle le roi mort et que je mène dans les ombres sans que personne soit au courant.
Je ne comprends rien, j'ignore tout de ce que vous me parlez.
Mm-hmm.
Est-ce que cette chose a des chances de revenir ici?
Honnêtement, je vois pas pourquoi elle le ferait...
Si on y reste trop longtemps, peut-être.
Oui, c'est ça. Mais sinon, vous et votre famille, je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Mais si vous revoyez votre chien, vous comprendrez que ce n'est pas lui.
Bon sang.
Donc, vous aviez l'intention de garder secret pour vous que c'était le duel allait se passer entre nous deux?
Tyrion Greyfer, notre roi de sel, m'a demandé de prendre le fer contre vous, Solomon. D'une part, je voulais savoir qui était l'homme que je devais mettre à mort. Je voulais vous connaître un peu avant de vous renvoyer auprès de vos défunts. Mais ma première raison est que, comme des milliers des miens veulent votre peau, quel meilleur endroit pour vous cacher qu'ici? Personne ne pourrait penser que vous êtes hébergé chez l'homme qui va vous affronter dans un duel à mort, non?
Tout à fait judicieux.
Vous aurez tout le temps de vous entraîner ici. Pour l'instant, nous allons nous occuper des blessures de votre ami. Jette un coup d'œil à Ygritte.
Très gentil à vous. Et j'ai remarqué que vous étiez doté d'un certain talent également.
Chacun ses dons. J'ai toujours eu une affinité avec les armes. Je ne l'ai pas choisi. Ça a toujours été comme ça. Je voyais les gens autour de moi s'entraîner alors que j'ai vite compris que, pour moi, ça me coulait dans le sang.
Et ça va au-delà du don naturel pour quelque chose. On parle plutôt... J'ai bien vu que c'est une capacité quasi surnaturelle que vous avez comme...
Qu'est-ce que vous racontez? Tu le vois qui secoue la tête puis qui dépose sa pipe sur la table. J'ai une aisance avec les armes que j'empoigne, mais c'est... Ça n'a rien à voir avec la ténèbre ou toutes sortes de magies que vous manipulez. Je suis comme je suis. Il y a plusieurs Fernés dans l'histoire qui ont eu cette... Peut-être qu'ils appellent ça une bénédiction, mais pour moi, c'est une malédiction. Solomon, cette aisance à enlever la vie, cette aisance à se retrouver sur un navire ennemi et être capable de tuer une dizaine d'adversaires dans le temps de le dire, d'être capable de désarmer... d'être capable de trancher une gorge comme si on clignait des yeux. Je n'ai pas choisi, comme je n'ai pas choisi de vous affronter. Le roi Greyfer me l'a demandé, et je dois m'y plier, mais je n'y prends aucun plaisir. J'aurai beaucoup à faire durant aux deux jours d'entraînement. Je dois retourner auprès des miens et de mon navire. Tasha prendra soin de vous. Nous reverrons au sanctuaire où aura lieu le duel. Tu vois qu'il se redresse. Il fait un pas vers toi, Kenan, et te tend la main pour comme t'en serrer l'avant-bras comme le font les Fernés. Écrivez bien son histoire, notre histoire, scribe. Racontez aux gens comment deux grands épées se sont affrontés alors qu'ils ne le voulaient pas. Racontez comment les rois se jouent de nous et que les héros d'une nation sont finalement que des pions. Rapportez bien ça.
Il y a peut-être une solution.
Une solution.
Une autre solution, capitaine.
Seriez-vous capable de désobéir à votre roi Azim, jeune scribe?
Tu vois que le capitaine peut arriver à avoir une sorte de d'acquiescement sans parole, de sorte de visage un peu ouvert de la part de Kenan, un peu hésitant, plutôt dans la positivité.
Nous ne sommes peut-être pas taillés dans le même bois. Je n'irai pas contre la volonté de mon roi. Il se retourne vers toi, Solomon. Dans deux jours, je vous affronterai, Solomon. Pas par plaisir, mais par devoir.
Sachez bien, Euron, qu'en m'accueillant ici dans votre famille pendant ces jours, vous m'avez mis dans une situation extrêmement difficile. Comment pourrais-je enlever la vie d'un mari et père de famille dont je connais même les enfants et la femme?
Les marins qui prennent la mer et qui ne reviennent pas, il y en a tous les jours sur les îles de fer. Tasha le comprend. Et même à 4 ans, Brandon le comprend aussi. Ce sera plus difficile pour Margot, mais s'il m'arrivait quelque chose, c'est la destinée que les rois nous ont dessinée, Solomon. Entraînez-vous, car moi je serai prêt à profiter d'autres repas que me prépare ma femme auprès de mes enfants. À cette table, je ferai tout pour revenir ici. Ne doutez pas de ma détermination, même si c'est le dernier de mes souhaits de vous tuer. Lorsque je me bats, mon corps bouge selon sa propre volonté. C'est mon don d'âme, Ygritte.
Tu vois qu'il penche la tête pour te saluer, Ygritte.
Tasha s'occupera de vos blessures. Veillez à ce que ça ne s'infecte pas. Vous avez été touché par cette chose.
Certes.
Il fait 2 pas pour te serrer l'avant-bras, Solomon.
J'y serre l'avant-bras également.
Nous nous reverrons sur cette terre ou dans votre paradis de défunt. Au revoir.
Au revoir, Ron.
Il ramasse un sac, sa pipe, son tabac. Vous le voyez franchir la porte. Vous êtes les 3 dans cette cuisine. Seuls, les enfants sont partis s'occuper des activités de la ferme. Tasha est dans la grange. Voulez-vous faire quelque chose? Alors que la caméra est sur vous et que vous êtes Kenan assis, Ygritte aussi, Solomon toujours debout, presque le bras encore tendu d'avoir serré la main de Ron Swan, que tout le monde appelle le capitaine 9 doigts.
Si personne répond, j'imagine qu'on va faire un cut là.
Chapitre 2. Une forteresse fort déplaisante.
Héros. 2 jours plus tard. Ma dernière gorgée a mal passé. ça fait une mort en direct. 2 jours plus tard, comme personne ne soupçonne que c'est Euron Swan, l'homme que tous appellent le capitaine 9 doigts qui vous héberge, vous arrivez à la forteresse du roi de Rock sans aucun problème. De près, vous êtes mieux à même de mesurer les dommages causés par l'incendie qui a brûlé presque l'entièreté de la capitale 20 ans plus tôt. Pour le château, la forteresse, cette structure qui fut érigée par les anciens bâtisseurs, certes la pierre ne semble qu'avoir noirci sans subir de véritables dégâts, mais tout de même, l'ensemble de l'œuvre causée par le feu donne une impression de cicatrice sur le bâtiment. Et si la forteresse a résisté aux flammes du catapultage du feu grégeois, ben il en fut autrement pour le reste de la cité. De la part de la garde qui vous accueille, vous avez le droit à des regards sévères et des tirades d'un ton sec. Sans préambule, le capitaine de la garde, accompagné par 10 autres hommes, des hommes assez baraqués, des fernés, et on vous conduit vers la salle du trône. Alors que vous passez devant une double porte qui donne sur une grande cour intérieur gazonné, vous voyez 6 hommes alignés qui tiennent de longs bâtons calés contre leur épaule, pointant des mannequins en bois, des quintaines. Soudain, le tonnerre s'abat dans la cour, fumée et feu sortant des bâtons tenus par la demi-douzaine de fernés. Un vieil homme vient vivement fermer les portes sur la scène. Le capitaine vous dit, et vous le sentez, c'est un ton désapprobateur, « Des expériences d'une sombre magie. Allez, avancez. » Vous entrez tous les 3 dans la salle du trône, face au roi Gunther Timbal, assis justement sur son trône, et flanqué de 2 hommes, l'un du même âge avancé que le roi, mais l'autre dans la mi-quarantaine, plus jeune. C'est la première fois pour Ygritte et Kenan que vous rentrez dans un bâtiment qui fut construit par les anciens bâtisseurs. Toi, Solomon, ben, le palais de Blanchelys, la capitale du Dominion, t'es familier. Hein, la capitale porte justement le nom de Blanchelys à cause des pierres blanches, des anciens bâtisseurs qui composent le palais qui domine la cité. une pierre douce, lisse, comme du marbre poli, mais beaucoup plus légère et excessivement résistante, pratiquement indestructible, comme en témoigne la forteresse de Pike, où vous êtes, qui a résisté aux flammes du feu grégeois. Et une fois dans la salle du trône, du roi de Rock, votre souffle se coince dans votre gorge. La pierre habituellement blanche des anciens bâtisseurs est ici dorée, comme de l'or. Et les formes et les structures sont toutes en courbe et rondeur. De quoi vous donner le vertige durant les premières minutes, tellement l'immense pièce est inhabituelle et qu'elle se joue de tous vos sens. Dis-moi, Solomon, tu vois l'un des hommes, l'homme qui a le même âge que leur roi, qui le flanque à côté du trône, et tu devines en lui un enténébreur. Es-tu surpris de voir un enténébreur à la droite du roi Gunther Timbal, hein? Un autre non. royaume où l'on condamne à mort l'utilisation de la ténèbre, mais que celle-ci est acceptée et utilisée dans le cirque royal.
Non, c'est ça, c'est la troisième fois que je vois ça. Donc, je suis pas surpris, puis je commence à prendre conscience que finalement, les rois que je pensais qu'ils étaient à la tête de l'échiquier le sont peut-être pas, qu'il y a peut-être un jeu qui se joue au-dessus d'eux-mêmes et que certains enténébreurs tirent peut-être des ficelles.
Il y a une vingtaine de soldats bien équipés, visiblement entraînés dans la pièce, mais ils se tiennent assez loin. Jamais t'aurais vu des gardes aussi éloignés du roi Marcus au sein du palais du Dominion dans le temps, Solomon. Ça te semble quand même assez curieux. Vous voyez le roi Gunther, Timbal, se lever. Il affiche un regard dur, des traits sévères qu'un nez pointu et volontaire accentue au milieu d'un visage teint et brûlé par de longues années exposées au soleil. Ses traits sont très semblables à son cousin, hein, le capitaine John Timbal, qui vous a conduit jusqu'aux îles. Cependant, malgré l'âge du roi Timbal, on reconnaît en lui le port d'un roi, malgré les ans qui lui courbent un peu le dos.
Soyez le bienvenu.
Et là, il te regarde, Solomon.
Suivez-moi, frère Solomon. Nous allons prendre un peu l'air au balcon. Vous voulez bien?
En ce lieu, sa voix semble amplifier et se propager dans tout l'espace et s'élever vers les hauts plafonds. Il ne se préoccupe pas du tout de vous, hein, Kenan et Ygritte, et vous le voyez descendre ses curieuses marches tout en courbe et se diriger vers Solomon.
Est-ce que sa démarche est ferme? Ce qui semble en bonne condition physique.
Un peu le dos courbé, comme je disais, mais tu sais, il boite pas, il n'y a pas de canne, mais oui, il y a un âge quand même assez avancé.
Parfait. Donc, les deux mains derrière le dos, là, je le suis.
Très bien.
Sans un mot.
Le vieil homme à gauche du roi, les mains refermées sur un grand bâton de marche, se lève à son tour et avance vers vous deux. Kenan et Ygritte, descendant les marches, faisant claquer à chaque pas son long bâton sur le sol dur. Il ressemble beaucoup au roi, mais ses traits sont plus doux, plus avenants. C'est sans doute son nez, hein, moins conquérant, et ses yeux bleu clair qui viennent adoucir son visage d'un aura sympathique. Ou c'est peut-être simplement du fait d'être à côté d'un homme aussi sévère que le roi, hein, qui le rend automatiquement plus cordial. C'est dur à dire. Je me nomme Griva, conseiller du roi Gunther. Sa voix est étonnamment jeune pour l'âge qu'il a. Vous devez être Kenan Karaman, le jeune scribe archiviste du roi Azim le Hardi, celui qu'il a désigné comme témoin du duel de demain.
Exact.
Il te lance une œillade, Ygritte, mais sans plus. Il revient à toi, Kenan. Il nous faut nous entretenir, jeune homme. Il t'indique la direction contraire qu'a pris Solomon et le roi. Autrement dit, il t'invite à prendre le chemin que vous venez à peine d'emprunter pour entrer dans la salle du trône. Suivez-moi.
On voit sans doute un petit air d'étonnement de la part de Kenan qui s'attendait pas pour l'instant à être interpellé là. Mais Kenan le suit.
Ygritte, tu vois Kenan s'éloigner avec le vieil homme qui marche en suivant son bâton. Tu te retrouves seul avec l'homme dans la mi-quarantaine qui est assis à la droite du trône. Bien qu'il soit assis, hein, tu le devines très grand, hein, peut-être un 6 pieds 2, soit 1m88. Musclé par le combat ou une vie de dur labeur, impossible à dire. Une tresse vient couper sa barbe en deux, du même blond doré que ses longs cheveux fournis et attachés à l'arrière. Ses yeux bleus, très brillants, semblent t'analyser et sont fixés sur toi depuis que tu es entré dans la salle. Tu sens la présence des gardes à plus de 20 mètres de vous. Il se lève, faisant craquer la chaise qui le soutenait. À son tour, lui aussi, descend les marches. Oui.
Il grite tout le long, elle va soutenir son regard comme un peu, tu sais, en fronçant les sourcils du genre, c'est quoi tu me veux, toi? Puis tout en gardant un œil attentif sur les gardes autour, comme si elle avait peur de, je sais pas, se faire sauter dessus ou autre.
Guanac, je me trompe, non?
Non, en effet.
Aucun Fernet ne peut se vanter d'avoir croisé un individu de votre peuple. Vous n'existez pour nous que par la bouche des gens du Dominion, qui vous décrivent plus comme des animaux que des êtres humains. On parle des femmes comme des êtres possédés par le malin, portant en eux le démon.
Je ne porte en moi aucun démon, mais...
Et vous correspondez assez bien à la description que les gens du Dominion font de vous.
Tu vois qu'il commence à marcher comme tourné en rond autour de toi. Comment te sens-tu, Ygritte, en ce moment, alors que tu entends ses pas claquer sur cette pierre qui t'est inconnue, cette pierre dure, lisse, lisse comme un miroir?
C'est comme si, en fait, un peu, je ferais un parallèle un peu avec un tigre en cage dans un cirque, là. T'es dans une petite cage fermée, il est sauvage, il est comme... il peut pas faire grand-chose, tout le monde le regarde, les yeux, puis...
Donc, on te sent crispé, là.
Mm-hmm.
OK.
Qu'est-ce qui vous amène si loin du Nord, femme?
Il continue de tourner autour de toi, très lentement, à te regarder, te détailler, t'étudier.
Ce qui m'amène ici me regarde.
J'ai vu la façon dont vous regardiez Solomon Santagar. Vous êtes quoi? Une espèce de garde du corps.
Et qu'est-ce que ça ferait, si j'en étais un?
Qu'est-ce qui vous lie à lui?
Pourquoi vous voulez savoir?
Devons-nous nous inquiéter de vous, Guanac?
Est-ce que vous vous inquiéteriez de n'importe quel autre Guanac, s'il était présent?
Je crois que vous connaissez ma réponse. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre peuple.
La vingtaine de gardes qui sont restés dans la salle du trône se rapprochent. Se rapproche tranquillement.
Suis-je sous arrêt? Ai-je commis un crime?
Ah.
Par ma simple présence?
Si je tends l'oreille à toutes ces histoires provenant du Dominion, oui, crime vous avez commis, et un peuple impie vous êtes, cruel, barbare, farouche, animal, et je ne connais pas vos intentions.
Je n'ai aucune intention hostile envers quiconque qui n'en démontre aucune envers moi.
Les gardes sont de plus en plus près. Moi non plus. Aussitôt le duel terminé, vous serez libre. Vous aurez tout le loisir d'accompagner le Mésoïn pour aller chanter dans ce royaume de sable que les Fernets ont été vengés et que Solomon Santagar a été tué par le champion des îles de fer.
Et en attendant, que comptez-vous faire de moi?
Vous serez à l'ombre.
Et là, tu vois, les gardes sont très très proches.
Considérez-vous comme mon invité personnel, Guanac.
Est-ce que vous envoyez tous vos invités en prison?
Seulement ceux que je n'ai pas invités et que je n'attendais pas.
La caméra délaisse le faciès quelque peu menaçant de cet homme. Den de Hendrick Forgefer et se tourne vers toi. On va bientôt te délaisser, Ygritte. Est-ce que tu veux prendre encore la parole, décrire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit?
Ben, les gardes vont se rapprocher, en fait, de plus en plus. Ygritte va comprendre qu'elle doit coopérer, mais elle va clairement faire comprendre également à son interlocuteur que, oui, elle va suivre, elle va coopérer, mais que ses gardes n'ont pas intérêt de la toucher ou de la traiter comme, c'est de façon déplacée.
Moi, je verrais bien un garde tendre le bras comme pour te prendre un bicep, puis voir Ygritte, tu sais, comme dénuder les dents, comme prête à mordre. Là, mais t'es
ouais,
pas pour
ouais,
le voir pour
ça.
De vrai. T'es comme pour jouer le jeu. Vous pensez que je suis sauvage.
J'en grenier.
C'est ça, je vais jouer la sauvage. Fait qu'effectivement, tu vois un garde peut-être approcher sa main proche de ton bras pour te raccompagner. Que fais-tu, Ygritte?
Je vais montrer les dents en grognant, littéralement, genre...
Écoute, tu le vois aussitôt, t'entends tout le métal qui trimballe ferraillé alors qu'il recule vivement. Il s'attendait pas à ça. Tu sais, quand t'es une masse, t'es 20, tu t'attends au minimum que la personne qui est tout seule face à 20 personnes prenne son trou. Fait qu'il il fait vraiment le saut. Après ça, ils comprennent que ils ont pas affaire à n'importe qui et ils ont mesuré un peu ton caractère, donc... Ils vont se tenir à un mètre de toi et t'accompagner.
C'est le COVID, un mètre!
Et
là, quand Solomon puis Kenan vont revenir dans la salle du trône, ils vont trouver une Ygritte en sang avec 20 gardes émasculés.
C'est quoi qui est en train de mâcher dans sa bouche? Ah, il s'en bat les couilles!
Tu m'en bats les couilles! Il est en train de jongler, tu sais.
Non, Ygritte, ils vont te raccompagner à tes quartiers pour les prochaines 24 heures, si tu revois ce
monde. Qui sont littéralement dans le fond des cellules, là.
Oui.
Oui.
Il y a des barreaux. Oui, tu as bien fait d'amener l'image du tigre en cage.
Oui.
C'est ce que tu seras pour les prochaines 24 heures.